Je veux d'abord vous remercier pour votre grande générosité ici à l'Assemblée de Sainte-Marie. Vous êtes vraiment très généreux, je suis reconnaissant. Et je veux pour vos prières et votre support suite au décès de mon fils, au début du mois d'octobre, il y a 2 mois. Et j'ai envie de vous partager un petit quelque chose là-dessus, avant de commencer sur le credo. Vous savez, les policiers sont là pour nous protéger et faire régner la loi. Mais en général, on n'aime pas tellement ça, faire affaire avec eux autres. Hein? Quand on voit des polices... En tout cas, ceux qui ont envie de nous parler, ça ne nous tente pas tellement. Et on revenait d'une marche, Christine et moi, le dimanche soir. Et il y a 2 policières qui sont sur la galerie, qui nous attendent. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il veut? Il doit se passer de quoi dans le voisinage, là, je ne sais pas. Et Christine, elle avait comme allumé un peu de pourquoi qu'ils s'en venaient nous voir. Et puis là, ils nous ont annoncé ça. Vous savez, quand on entend le mot « décès », c'est final. Il n'y a pas de suite. Et on ne peut pas dire... Je me rappelle quand on était dans le bureau du médecin avec Louise, ma première épouse, et que le médecin avait annoncé à Louise qu'elle avait le cancer du poumon. Moi, j'ai demandé, c'est quoi la suite? On s'attend à quoi? Décès, on ne dit pas ça. Il n'y en a pas de suite. C'est terminé, il n'y a pas d'appel, c'est final. Et c'est brutal aussi. Et quand je dis brutal, les 2 dames ont été extrêmement gentilles et délicates, mais il n'y a pas de bonne façon d'annoncer ça. C'est pas une bonne nouvelle, puis ça n'en sera pas une. Que je te le dise avec des fleurs ou en chantant, ça reste une mauvaise nouvelle. Et... Évidemment, suite à ça, on a reçu énormément de courriels de l'Église. Et quand je dis de l'Église, je ne parle pas juste de Saint-Jean, je parle de l'Église. L'Église de Dieu, Saint-Jean, évidemment, Sainte-Marie, Sainte-Foy, un peu partout, en Europe, à publication chrétienne. Et c'est on pourrait presque résumer tout ça dans 2 phrases, là, où les gens nous disaient qu'il n'y avait pas de mots, puis qu'ils priaient pour nous. Et ça, c'était le dimanche, là, que c'est arrivé, que les policiers sont venus nous voir. Et le mardi, ou le mercredi, je pense, au souper, on avait, évidemment, on a de la peine, mais quand même une paix. Et Christine, elle me dit, « Coudon, on est-tu normal, nous autres, de ne pas réagir plus que ça, là, de ne pas se jeter à terre? » Et je respecte ça, là, si ça arrive. Je dis, « Écoute, je ne sais pas. » Et là, on est assis pour souper, ça fait « ting », bon, un autre message. C'est quelqu'un d'autre encore qui dit à peu près la même chose, et il dit, on prie pour vous. Et là, on s'est dit, mais c'est ça. On n'est pas normal. C'est exactement ça. Les gens prient pour nous, font monter des prières à Dieu, et Dieu soutient ses enfants. Ça n'enlève pas la peine. Ça n'enlève pas la douleur. Ça n'enlève pas la réalité. Mais ça nous met dans un esprit de paix. L'Épître de Jacques, à la fin, dit... La prière du juste est d'une grande efficacité. Et je vous le partage pour que vous priez les uns pour les autres. Ça fait vraiment une différence. Et on l'a ressenti, et quand on a vu ce message-là, on prie pour vous, on s'est dit, c'est ça. C'est ça, ça doit faire 50, 75, 100 messages, je ne sais pas combien, qu'on reçoit, où les gens nous disent « on prie pour vous » et la prière fait une différence dans la vie du croyant. Personnellement, mais aussi pour les autres qui vivent des épreuves ou des prières de reconnaissance, parce qu'on rend grâce à Dieu. Je vous encourage à prier les uns pour les autres, sachant que la prière du juste est une grande efficacité. C'est pas parce que j'ai envie de vous dire ça, là, c'est parce que la Bible dit ça. Vous savez, c'est pas moi-même, c'est avec l'autorité biblique qu'on peut affirmer que la prière change quelque chose. Des fois, ça reste théorique. Hein? On prie. C'est pas trop. Mais Dieu entend. Et Dieu répond. Des fois, il répond non. Hein? Des fois, on demande des choses, puis on l'a pas. Il répond non. Ou il dit attends. Mais Dieu répond et il prend soin de ses enfants. Donc, je vous encourage à prier les uns pour les autres, mais c'est pas ça le sujet de ce matin, c'est de continuer le petit bout du credo apostolique, et encore une fois, je répète, le credo apostolique, on n'est pas en train de faire l'apologie d'une prière, c'est pas une prière, c'est un texte, comme je l'ai déjà dit, que les premiers chrétiens récitaient particulièrement au moment de leur baptême, et c'est presque un condensé de théologie. Les gens n'avaient pas de livre, la plupart ne savaient pas lire, donc ils apprenaient ça par cœur, et c'était la base de la foi. C'est ce qu'ils croyaient, c'est ce qu'ils défendaient, c'est ce qui animait leur vie. Et encore aujourd'hui, je pense que je l'ai dit, ce qui est écrit dans le credo apostolique, on croit beaucoup plus que ce qui est écrit dans le credo, mais on ne peut pas croire moins que ce que le credo affirme. Et on a vu « Je crois en Dieu » et là « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie » et on arrive a souffert sous Ponce Pilate, et c'est un peu un condensé de christologie. Je vous avais dit que la section sur Jésus-Christ est la section majeure du credo. Ça prend la moitié du credo. « Je crois en Dieu » a pris deux phrases. « L'Esprit aussi aura sa place », une ou deux phrases, et ensuite l'Église. Mais Jésus-Christ, comme c'est le centre de l'Église, c'est pas, je vous apprends rien, si je dis que le Jésus-Christ est le centre de l'Église à Sainte-Marie, c'est le centre de l'Église à Saint-Jean, c'est le centre de l'Église, point. Donc, les auteurs du credo ont pris une grande place pour parler de Jésus-Christ, et ça dit « a souffert sous Ponce Pilate ». Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean, au chapitre 18. Et on va aller au verset 29, où les chefs religieux ont amené le Seigneur à Pilate. Et juste avant de lire ça, les Romains laissaient une grande place à ceux qui conquéraient pour gérer leurs affaires. En Judée, en Israël, c'était le Sanhédrin qui gérait les affaires, qui gérait les litiges. Mais il laissait une grande place dans la mesure où les locaux, comme Israël, ne faisaient pas de trouble aux Romains. Évidemment, s'ils faisaient du trouble, ne payaient pas leurs impôts, contestaient César, ils prenaient l'emprise. Mais ce n'était pas le cas en Israël, malgré que les Israélites n'aimaient pas les Romains. Là. Donc, c'est le Sanhédrin qui gérait, mais le Sanhédrin ne pouvait pas mettre à mort quelqu'un. Ça, il ne pouvait pas faire ça. Il pouvait le juger, il pouvait lui infliger des punitions, mais pas le mettre à mort. Ça relevait de Rome, de Pilate, le responsable procureur Judée. Et c'est pour ça qu'on amène Jésus à Pilate. Et au verset 19, « Pilate sortit donc pour aller vers eux et leur dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Et là, la suite du chapitre 18, à aller jusqu'au verset 16 de 19, c'est la discussion entre Pilate et les Juifs, parce que Pilate était un homme qui en avait vu d'autres, là. Il en avait vu d'autres, des criminels, des bandits. Et manifestement, l'homme qu'il avait devant lui avait rien d'un bandit, avait rien d'un criminel, avait rien d'un danger pour Rome, et il voulait le relâcher. Et tout le long, on voit que Pilate, même sa femme à Pilate, hein, vient voir et dit « Je veux pas que tu aies rien à faire avec ce gars-là, parce que j'ai eu un songe. » Et Pilate veut le relâcher, mais les chefs religieux veulent pas. Et y a un tumulte qui est potentiel. Donc, pour éteindre le tumulte, à l'autre chapitre, au chapitre 19 et au verset 16, « Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. » Donc, Pilate n'a pas gagné son point et il a laissé aller le Seigneur aux mains des Juifs et de ses soldats aussi pour le crucifier. Et le credo nous dit « a souffert sous Ponce Pilate ». C'est la seule personne qui est nommé dans tout le credo, Ponce Pilate. Est-ce que c'est parce qu'il est procureur romain? Est-ce parce que c'est quelqu'un qui est important? Est-ce que c'est lui seul qui est responsable de ce qui va suivre? Pas du tout. Je vous rappelle que le credo est écrit pour renforcer la foi et pour définir la foi des chrétiens, mais aussi pour combattre l'erreur, l'hérésie qui débute au premier siècle, et pour cristalliser dans le temps le fait que Jésus-Christ a réellement existé. Et quand on dit « a souffert sous Ponce Pilate », ça vient mettre une date. On vient le fixer dans le temps et on vient attester que cet homme-là a réellement existé, qu'il est né et qu'il est mort, effectivement, sous Ponce Pilate. Vous savez, le credo vient éclaircir le fait que le christianisme n'est pas de la mythologie. On n'est pas dans la mythologie grecque ou romaine ou égyptienne ou quoi que ce soit, là. On est dans la réalité historique humaine. On est dans des relations terrestres. Aujourd'hui, on est en 2025, après Jésus-Christ. On est réellement, à chaque fois qu'on met une date, on affirme que Jésus a existé. Luc 2:2 dit... Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Vous voyez, le passage de Jésus-Christ sur la terre, quand je dis le passage, je veux dire le temps qu'il a vécu n'est pas un mythe, c'est la réalité. Cette histoire-là est un fait historique. Et après a souffert sous Ponce Pilate, là c'est dit... a été crucifié. Et c'est probablement l'affirmation la plus osée du credo. A été crucifié. Affirmer qu'un homme crucifié est le sauveur, c'est scandaleux au premier siècle. Et Paul va l'exprimer dans sa première épître, au verset 23 du chapitre 1, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Au verset 18, il avait déjà dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il n'y a pas de détail qui est donné de la crucifixion. Quand je dis qu'il n'y a pas de détail, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix, comment ça se passait, il n'y avait pas besoin de détails. Les gens qui ont assisté à une crucifixion, évidemment, chez nous, il n'y en a pas parce que ça n'existe plus, mais à ce moment-là, c'était commun, très commun, la crucifixion. Et ceux qui assistaient à ça n'avaient pas besoin de description. Ça rentrait là et ça restait là. Écoutez, on a chanté tantôt, et peut-être on devrait dire ça. Nous, ici, en tout cas au Québec, pour ceux qui ont un certain âge, la croix, c'est quelque chose de banal. À Québec, l'Hôtel de Ville de Québec, ils ont voté pour retirer la croix ou un crucifix, ou je ne sais pas si c'est une croix ou un crucifix, là, mais ils vont le retirer de où ils ont des débats pour le mettre probablement dans un corridor pour le patrimoine. On voit des croix partout. On est habitué à ça, puis c'est banal pour nous, une croix. C'est un symbole religieux, comme une petite pomme. Des fois, on voit une petite pomme sur un ordinateur, c'est Apple. Ça, c'est Apple. C'est le signe de Apple. La croix, c'est le signe d'un signe religieux. D'ailleurs, les gens n'auront plus droit de porter des croix, là, avec les nouvelles lois qui sont extrêmement, puis je ne suis pas en train de défendre la croix, là, mais extrêmement difficile pour les croyants, les nouvelles lois là, qui s'en viennent. Mais tout ça pour dire qu'on a développé quelque chose de, une indifférence presque pour la croix. Mais la croix, c'est un instrument de torture. Imaginez si le Seigneur avait été électrocuté. Il n'y a pas d'électricité dans ce temps-là, là, mais électrocuté. Est-ce qu'on se promènerait avec des petites chaises électriques? Est-ce qu'on aurait des images de chaises électriques, ces murs, puis un peu partout? Non! C'est sûr que non. Mais nous, on a une distance avec la crucifixion et on a comme perdu l'horreur. On a chanté dans le premier cantique, le 158, « Mon Dieu, tu m'as aimé, quand sur la croix infâme, on vit de Jésus-Christ le corps inanimé. » Qu'est-ce qu'on veut dire par « croix infâme »? Infâme, c'est hideux, c'est laid, c'est méprisant. Et c'était ça, la croix. En fait, c'est exactement ça, là. Mais on, en tout cas, je ne vous juge pas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça passe assez facile, là, sur la croix infâme, on chante ça. Mais ça ne vient pas me chercher comme les gens du premier siècle qui ont dit « a été crucifié ». Un crucifié, c'était la mort la plus horrible, la plus douloureuse, la plus ignoble, la plus infâme, comme on a lu, la plus méprisante. Seulement les esclaves, les bandits, les vauriens, les prisonniers étaient crucifiés. On ne pouvait pas crucifier un citoyen romain. C'est pour ça que quand Paul, dans sa prison, a dit « Je suis citoyen romain », le geôlier pognait de quoi? Là, il dit « Wow! » Il était trop loin. Là. Il avait pas, il aurait dû poser la question avant. Il ne voulait pas le crucifier. Là. Mais les citoyens romains avaient des droits. Et quand on a écrit sur la croix « Roi des Juifs », C'est une moquerie parce que jamais les Romains auraient crucifié un roi ennemi. Ils l'auraient mis à mort, mais d'une autre façon. La croix était tout ce qui enlève la dignité à un homme. Tout. Absolument tout. Vous savez, on a l'image des crucifix, justement, où il y a quelqu'un d'accroché là avec un petit linge autour de la taille. Il n'avait pas de petit linge, là. Il n'avait pas de petit linge, là. Il était absolument nu pour l'humilier jusqu'au bout. C'était humiliant, non seulement pour lui, mais pour sa famille qui était là aussi. Le crucifié est en train de montrer à tous qu'il est un vaurien. Et je ne veux pas donner de détails trop, mais vous savez, cette mort-là, là, il était fixé à la croix. Il avait été fouetté, il y avait des blessures, il y a des mouches là-dedans, il y a toutes sortes de bébites là, qui... Et il ne peut pas, vous savez, moi, quand j'ai une mouche, on fait ça comme... Il ne peut pas, lui-là, là. Il endure ça, et ça dure quelques jours. C'est pour ça qu'à un moment donné, il venait briser les genoux, parce que celui qui était crucifié mourait par asphyxie, mourait asphyxié. Et il était cloué les mains et les pieds, comme on le sait, et naturellement, le corps s'affaisse, et là, on n'est pas capable de respirer, donc il faut se relever pour respirer, et il est cloué, il déchire ses pieds. Chaque fois qu'il respire, il déchire ses pieds, ou ses mains, parce qu'il peut ça. Fait que c'est une mort extrêmement atroce. C'est pour ça que quand on dit « a été crucifié », on est en train d'insister sur le mode le plus humiliant et le plus douloureux qui existait. Philippiens 2 nous dit « il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, la pire. » Il s'est rendu jusqu'à la pire des morts. Et comme je vous ai dit, la croix assurait d'enlever toute dignité au crucifié. Mais la croix est un, Paul l'a dit, elle est une honte pour les Juifs, un scandale. Pour un Juif, le livre du Deutéronome, vous connaissez le verset, « Maudit est quiconque est pendu au bois. Il est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Deutéronome 21-23. Ils ont ça dans la tête. Celui qui est pendu au bois ou crucifié est une malédiction. Et le Messie est celui qui va représenter Israël, celui qui est à la tête d'Israël, celui qui conduit Israël. Si cet homme-là est le Messie, Israël est sous la malédiction au complet. Si Israël reconnaît Jésus-Christ crucifié comme le Messie, ils reconnaissent qu'ils sont sous la malédiction. C'est tout Israël qui est maudit en même temps. Ils ne peuvent pas, logiquement, reconnaître cet homme-là comme le Messie. Et c'est la même chose pour les Grecs et les Romains. C'était de reconnaître que, je vous ai dit tout ce que ça représentait, la croix et un crucifié, c'était le moindre des êtres humains, c'était la pire façon de montrer quelqu'un. Vous dites que cet homme-là est votre Dieu, cet homme qu'on a jugé comme un vaurien, comme un scélérat, qu'on a battu, qu'on a crucifié. Aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Imaginez aujourd'hui si on va... Vous avez entendu parler des sans-abri qui vivent un drame épouvantable, surtout à Saint-Cy. On prend quelqu'un comme ça qui a l'air de ce qu'il a l'air, puis on dit, bon, ben, on va en faire notre premier ministre. Tout le monde va dire, mais voyons, ça va-tu, là? Ça ne marche pas, là. Il manque quelque chose, là. Ça ne fit pas, là. Il ne peut pas faire le premier. Il n'y a pas ce qu'il faut. Mais c'est ça, là, de prendre un crucifié et de dire, il est notre Dieu, il est le Fils de Dieu. Ça ne se peut pas, là. C'est un scandale. Ceux qui pensent ça, sont malades, là. C'est proche des fous. Donc, quand les gens disent, affirment qu'ils croient en Jésus-Christ crucifié, il affirme fort, là. Il s'expose. Et j'ai envie de vous dire un mot que vous ne connaissez pas, parce que ce n'est pas un vrai mot, il n'existe pas. Cruciformité. Cherchez pas ça dans le dictionnaire, vous ne trouverez pas. Mais j'ai aimé ça, ce mot-là. Je me suis dit, ça devrait exister. Cruciformité. Uniformité. Conformité. Comprenez où on s'en va? Cruciformité. Parce que tout ce que je viens de vous dire de la croix, de Jésus-Christ crucifié, nous, en tant que chrétiens, on s'associe à Jésus-Christ. Dans notre identité. Galates 2.20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est beau, c'est le fun de dire ça, mais quand on s'associe à quelqu'un qui est crucifié, j'ai été crucifié avec Christ. Hein? C'est pas... j'invente pas ça, là. Paul dit ça dans l'Épître aux Galates. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que vraiment on s'identifie avec un crucifié? Dans quel sens tu dis ça? Tu sais, ça ne m'arrivera pas, là, probablement pas, là, j'imagine. Mais moralement, oui, par exemple. Oui, ça peut vous arriver d'être humilié. Oui, ça peut vous arriver d'être traité injustement. Et quand ça injustement, ça veut dire que par exemple, il y a un drame, il y a tout un taf. On dit Nelson, c'est un voleur, il a fraudé, il y a toute une histoire. On invente une histoire, là, je te prends comme exemple. Là, mais il est traité injustement, et là, la presse s'empare de ça. Comment on réagit? Comment on réagit? On va dire, hey, non, no way, je ne suis pas comme ça. Puis c'est. Est-ce qu'on s'identifie au crucifié? Quand quelqu'un dans l'Église nous accuse de quelque chose ou pense qu'on ne l'aime pas ou nous a fait offense, est-ce qu'on agit comme ça? Est-ce qu'on s'identifie? Luc 9, 23, et je vous rappelle, Luc 9, 23, ça c'est bien avant la crucifixion, là, bien avant la passion. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ils ont compris ce que ça voulait dire, là. Pourquoi il a dit qu'il se charge de sa croix? Pourquoi il n'a pas dit simplement qu'il se charge des fardeaux ou des injustes? Non, non, il est allé loin, là. Le Seigneur a dit à ses disciples qu'il se charge de sa croix et de tout ce qui vient avec. Et il n'est pas en train de parler de la souffrance physique, mais de la souffrance. L'humiliation que la croix peut apporter. Accepter l'humiliation, l'injustice. Philippiens 2,5 nous dit ça aussi. 1 Pierre 2,21. La cruciformité de ce reconnaître dans quelqu'un qui est crucifié. Et on le lit, on le dit, mais est-ce qu'on le vit? Ça, c'est autre chose. Mais je reviens à la croix. Il est devenu péché pour nous. C'était votre place, c'était ma place. Quand on dit qu'il est devenu péché, là, c'est bien sûr par imputation. Hein. Lui, il n'y a aucun péché qui peut lui être attribué. Il les a portés à notre place. Il n'a pas porté nos maladies. J'ai aimé ça, ce que notre frère a dit un matin, c'est nos péchés. Il a porté nos péchés sur la croix. Et c'est là que ça se passe. Et quoi qui se passe sur la croix? Et outre les souffrances physiques qu'on a parlé, là, mais c'est quoi qui se passe au juste pendant ces heures-là? C'est par la croix que la colère de Dieu est apaisée. Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Victime propitiatoire, c'est de rendre Dieu propice à une personne qui apporte un sacrifice. Lui, par son sacrifice, a enlevé la colère de Dieu d'au-dessus de nous. On n'est plus destiné à la colère. On est destiné au ciel, à la grâce. C'est par la croix qu'on a la rédemption, le rachat, qu'on est passé de la mort à la vie. Éphésiens 1, 7, « Par lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Rédemption, c'est un mot du marché. On achète, rachat, on achète des choses au marché. On achetait des esclaves au marché. Et nous, on est rachetés de la vaine manière de vivre. On est racheté du péché. On a été transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Tchou! D'un coup, un éclair, un. Et c'est à la croix que ça se passe. C'est par la croix qu'on est réconcilié avec Dieu. Galates 1, 20, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » C'est là que ça se passe. La croix, c'est le centre de l'histoire de l'humanité, et je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, mais il n'y a rien qui va prendre le dessus sur la croix. La croix est en première position, là, puis il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas d'équipe en dessous. Là. Ça n'arrivera pas. Là. La croix va toujours être le centre de l'histoire de l'humanité. C'est par la croix qu'on a le pardon des péchés. C'est par la croix que les forces de l'ennemi sont vaincues. Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités. Ça, c'est des termes pour identifier des forces démoniaques. Les dominations, les autorités, on voit ça ailleurs aussi. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix est au centre de l'histoire de l'humanité. Elle est au centre du ministère du Seigneur. C'est l'objectif de sa venue sur la terre. L'objectif, c'était la croix, avec tout ce qu'elle représente. Et elle est un exemple pour nous. Matthieu 10, 38. « Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça s'adresse à nous. Oui, il s'adressait à ses disciples, mais ça s'adresse à nous de prendre la croix et de le suivre. Et c'est un encouragement pour nous. Mettons-nous un peu dans la peau des apôtres, ce vendredi après-midi qui précédait la Pâque. Ils ont tout abandonné pour lui. Et c'est la fête de Pâques, hein? C'est une grande fête. C'est la grande fête parmi les Israélites. Et cet après-midi-là, chacun apportait son agneau au temple pour le sacrifice et redescendait. Le temple était un peu surélevé dans la ville. Redescendait, c'est une fête, là. Il ne descendait pas la tête entre les deux jambes, là. Il descendait en chantant, c'était la fête, c'était la joie. Mais pas pour eux. Pas pour eux. Parce qu'eux étaient avec lui. Et j'imagine le Seigneur qui voit toute cette joie, tous les Israélites qui fêtent, et lui sait où il s'en va et ce qui s'en vient. Mais je repense aux apôtres qui ont tout abandonné pour lui, ils ont cru. Ils étaient certains. Ils étaient certains. C'est fait. On a trouvé le Messie. On s'en va régner. Et là, tout s'écroule. Dans cette soirée-là, il y a quelqu'un qui vient le trahir. Les Romains arrivent. Ils s'en vont au jardin de Gethsémané. Les Romains arrivent, partent avec lui, ils jugent. Mais où était Dieu? Où était Dieu pendant cette épreuve? Hein, j'imagine, Seigneur, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment ça que tout ça arrive? Et il savait où ce qui s'en allait. Il connaissait les habitudes. Écoutez, Dieu était sur son trône, comme il est toujours sur son trône. Et on finit les 20. On n'en fera pas beaucoup un matin. Mais ce n'est pas grave, je pense qu'il faut aller au fond. C'est un encouragement pour nous. Parce que quand on passe au travers d'une épreuve, Dieu est sur son trône. Et on peut se demander qu'est-ce qui se passe. C'est légitime de se demander qu'est-ce qui se passe, mais jamais de penser que Dieu est en train de l'échapper, comme on dit au Québec, là. Dieu est en train de l'échapper. J'ai une épreuve dans ma vie, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit avec les voisins, dans l'église. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sais que lui le sait et qu'il contrôle. Il se passe des choses dans ma vie, mais il n'est pas là, là, vous savez. Oh! Elle n'a pas vu ça. Ça arrive. C'est pas comme ça. Dieu contrôle les circonstances de nos vies comme il contrôlait les circonstances entourant la crucifixion, entourant le désarroi des apôtres. Ils sont tous partis. Pierre est revenu, Jean aussi, mais ils ont fui. Mais Dieu les a ramenés éventuellement, ensemble. C'est un encouragement pour nous. Et a été crucifié, c'est horrible, c'est épouvantable, mais pour nous et pour ceux qui le récitaient, ça nous rappelle tout ce qu'on a lu, tout ce que la croix nous procure et qu'on n'aurait pas pu acquérir d'aucune façon. D'aucune façon, le pardon des péchés aurait pu être accompli sans la croix. D'aucune façon, on aurait pu se réunir ici sans la croix, sans le sacrifice de la croix. On a un chant qu'on chante, je ne sais pas si vous chantez ça, la puissance de la croix. La puissance, en tout cas, je ne vous chanterai pas, là, parce que vous allez partir. Mais et quelqu'un est venu me voir, puis ça n'a pas de puissance, c'est ce qu'elle représente. Et ça me fait penser un peu à l'histoire de Jules César, quand Jules César a traversé un petit cours d'eau, pas sûr que c'est un fleuve, là, le Rubicon, mais en tout cas un cours d'eau, c'était banal, c'est banal de traverser un petit cours d'eau, Jules César avec son armée, mais c'est, le Rubicon marquait une frontière. Et ce n'était pas tellement le geste, c'était ce qu'il représentait. Jules César vient de déclarer la guerre à ceux qui régnaient à Rome à ce moment-là.
en traversant le Rubicon. Donc, c'est pas le fait, c'est ce qu'il représente. Et le fait de la croix est déjà très important, mais ce que la croix représente, ça, c'est majestueux. Et jamais on aura terminé d'adorer le Seigneur qui s'est offert pour nous sur la croix. Est mort et a été enseveli. Ça, c'est la prochaine fois. Est mort et a été enseveli. Et un autre qui est descendu aux enfers. C'est pas une bonne traduction, ça. Mais pas le temps de vous en parler. On va revenir. Notre Dieu et Père, encore une fois, on veut vous remercier pour la croix, pour ce qu'elle représente, pour ce que le Seigneur a accepté de souffrir sur cette croix, physiquement, moralement, mais surtout pour la séparation avec vous, cette séparation qui marque une ligne dans le temps. Jamais c'est arrivé, jamais ça va encore arriver, et on se demande pourquoi c'est arrivé, et on peut mettre notre nom à côté de ce point d'interrogation. C'est arrivé pour que nous ayons jamais à subir les foudres de votre colère à cause du péché. Le péché a été entièrement payé à la croix pour que nous puissions avoir l'assurance qu'un jour on sera avec vous dans le ciel pour toujours, à adorer celui dont on va encore voir les marques dans les mains et dans les pieds. C'est en son nom qu'on veut prier. Amen.
Amen.